Recule un peu, recule, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse, crampe, crampe, crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.
OK, des crampes.
Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.
C'est 23.
Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget.
Et bonjour tout le monde et bienvenue à une tasse de tech édition de la fin septembre, début octobre. Début octobre. C'est bon, ça. C'est le printemps. Ben oui, bravo à moi. C'est l'automne.
Début octobre, quelques jours à l'avance. Bonjour Alain McKenna.
Bonjour Pascal Forget. Comment ça va?
Ça va très, très bien. Belle journée. Je me remets d'une grippe. Ma voix commence à être moins grave.
Oui, c'est vrai.
J'espère que ça ne déçoit pas t'as raison. Les gens.
C'est une belle journée d'automne et pluvieuse. Excellente pour faire une balado.
Oui, exactement. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de boire du café. Mais avant, je voudrais remercier les partenaires pour la saison.
Oui.
GoDaddy.ca, Microsoft et TELUS. Et la machine à café Jura E8 entièrement automatique qui transforme du café en grain ou moulu en boisson caféinée ou pas de votre choix. L'affichage avec écran est super le fun. On peut choisir la boisson de son choix avec un ajustement précis de la quantité de lait, d'eau et de café. Leur salle de montre Edica sur Saint-Laurent à Montréal, c'est un puits de Formule 1 pour la réparation et l'entretien de votre machine à café. Ça vaut la peine de le visiter. Buvez pas de café avant, vous allez sauter en sortant.
C'est vrai ça. Non, mais en plus, c'est fort des espressos qu'ils font. Je vous dis, parce qu'on est TELUS comme commanditaire, que nous sommes présentement en version vidéo enregistrée sur YouTube et Facebook à travers mon réseau cellulaire sur la carte TELUS parce que j'avais un problème de Wi-Fi. Alors, si jamais vous voulez juger de la qualité de leur réseau, c'est un bon moment pour le faire. Si ça coupe, hein, vous savez ce que ça veut dire. Ben, peut-être que mon téléphone est dans une boîte en métal aussi, c'est une cage de Faraday, je ne sais pas, mais bon.
Et moi, je suis à la maison et j'ai eu des coupures de réseau. Alors, faut pas mettre tout le temps.
Non, ben, c'est ça, la chaîne est plus longue.
C'est peut-être le réseau en général qui est problématique aussi.
T'as raison.
Un truc que je voulais mentionner en début d'émission, c'est très, très drôle. J'ai fait une petite publication là-dessus. Tu sais que c'est possible de créer rapidement un document Word ou Google Docs simplement en tapant docs.new.
Oui.
Pour un document Google. Mm-hmm. Ou word.new.
Ah, ça aussi.
Word.
Ah oui.
Oh, oui. Ah oui, word.new. Les entreprises se sont battues pour trouver l'extension, utiliser l'extension .new. Il y en a aussi pour Excel, PowerPoint, pour des documents, des feuilles de calcul Google, beaucoup d'autres services. Si vous ouvrez constamment des pages en passant par votre logiciel avec des interfaces en ligne et que votre login est indiqué, si vous faites des raccourcis .new, ça pourrait fonctionner. C'est très facile à trouver. Cherchez sur Internet Google .new extension. Vous allez voir, c'est pas nouveau, mais j'étais surpris que si peu de gens le savaient. Et je vois honnêtement que moi, je le savais, mais je le faisais pas. Et ça m'a... Hier, quand j'ai préparé les notes de l'émission, j'ai fait Excel.new. Et ça m'a permis de me connecter. Ça a permis de créer un document Word, docs.new, word.new. Pour avoir le nouveau document. J'ai sauvé quelques secondes et je suis très content de partager ce truc-là.
Tu vas bien de parler de Google. On va en parler la semaine prochaine aussi, puisque le lancement de Pixel s'en vient. Parlant de Pixel, juste glisser rapidement qu'on a un concours. Hein? Je vous le dis tout de suite, une tasse de tech avec les gens de Plan Hub, où vous pouvez courir la chance là, de gagner soit un iPhone 14 tout étincelant et tout neuf, ou un Pixel 6A et ses Pixel Buds, qui eux sont évidemment de Google et qui sont tout aussi étincelants. Il suffit de s'inscrire, il suffit d'abord de vous abonner à notre balado, parce que si vous ne le faites pas, on n'est pas content. que ce soit en audio ou en vidéo, on a une chaîne YouTube, une page Facebook, on a aussi la balado sur Apple, balado, Google, Spotify, partout où vous voulez. On se trouve, abonnez-vous et ensuite, allez faire un petit tour sur la description en fait de la balado où on va mettre le lien vers la page sur le site de Plan Hub là, pour s'inscrire à ce concours-là. Vous avez jusqu'au 23 octobre pour le faire. La page exacte, là, c'est planhub.ca/alerte-internet. Si vous êtes bon d'y aller à l'œil, allez-y comme ça. Sinon, effectivement, on met le détail dans la description. iPhone 14 qui est tout à fait correct. Et le 6A aussi. Évidemment, c'est pas le 7. J'ai hâte de voir le Pixel 7. On en parlera probablement la semaine prochaine. Ou peut-être la semaine d'après, dépendamment. Hein? Mais déjà, on voit la fiche technique. C'est on a vu des visuels.
La fiche technique a fuité, photos de la Google Watch.
Ouais.
Beaucoup, ceux qui sont curieux, peuvent déjà avoir les détails. Mais toi, tu vas nous confirmer ça la semaine prochaine en direct de New York.
Si on enregistre de là-bas, oui. Sinon, on va certainement tweeter, hein, Pascal, comme on le fait tout le temps.
On va s'envoyer
tu parles de Pixel Watch, tu fais penser que j'ai présentement au poignet Galaxy Watch 5
que
j'ai dans les mains, les Galaxy Buds 2 Pro. C'est les noms de. Il va falloir que Samsung revoie son appellation des produits. Et j'ai aussi le Galaxy Z Fold 4, le fameux téléphone pliant. C'est ce dont on va parler. En tout cas, ce dont moi, je vais parler à la fin. Toi, tu as une petite bébelle aussi sur laquelle j'avais l'œil, mais qui est plus simple, en fait.
C'est la Clara 2E de Kobo.
Voilà.
Et on peut la comparer avec la Poké 4 de Books.
Ah oui.
Et la Super Note.
Oh mon Dieu, t'es rendu avec un catalogue complet, là.
Mon expertise en trucs électroniques, ça, c'est juste mes liseuses. Ma pile de tablettes, j'adore les trucs en papier électronique, c'est mon dada. Je peux vous en parler avec beaucoup d'enthousiasme.
Entre-temps, on va quand même faire un petit tour sur les actualités de la semaine, parce qu'il y en a eu pas mal. Juste se rappeler que l'actualité techno de la semaine est présentée par l'infolettre quotidienne Info Bref. Toute l'actualité de la journée, sans flafla, ça se lit très bien, ça se digère facilement, directement dans votre inbox, votre boîte de courriel, n'est-ce pas? Deux fois par jour, matin et soir, allez sur infobref.com. Il y a aussi la lettre, le bulletin du samedi qui, je pense, s'appelle Infobref Vos affaires, votre portefeuille, vos finances, qui s'adresse davantage aux gens qui veulent sauver des sous. Pas mauvais ça non plus. Et donc, allez-y, infobref.com. Pascal, ta première actu me fait sourciller, là. Se faire remplacer pour une intelligence artificielle pour que la voix de Darth Vader puisse prendre sa retraite.
Ouais, les amateurs de Star Wars vont probablement me reprendre sur des détails techniques que je n'ai pas donné exactement. Ils sont pointilleux, les amateurs de Star Wars, et ils tiennent à la voix de Darth Vader. Mm-hmm. Et depuis le premier film en 77, c'est James Earl Jones, l'acteur, qui prête sa voix à Darth Vader. Je suis ton père, Luke.
En anglais,
en français, c'est pas exactement la même chose, mais en anglais, c'est assez caractéristique. Il a décidé de laisser sa place à une intelligence artificielle. Ça va toujours être sa voix, mais générée par une intelligence artificielle. Ils ont donné la permission. James Earl Jones avait envie de prendre sa retraite. Ça s'est manifesté en 2019 lors de l'enregistrement de sa voix pour Star Wars, l'Ascension de Skywalker. C'est une retraite qui est assez bien méritée. Il a 91 ans aujourd'hui.
Oui, c'est ça. Il n'est plus sa première jeunesse, là.
Et c'est ça, sa voix était là depuis le début. Il s'est dit peut-être que pour quelques lignes de dialogue, je pourrais peut-être prendre ma retraite puis laisser faire ça. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend un imitateur? Est-ce qu'on change l'acteur qui va faire la voix de Darth Vader? Ce qu'on a fait dans un article de Vanity Fair, on apprend qu'on a utilisé une voix technologique. ça s'appelle Respeecher. C'est une compagnie de clonage vocal qui reprend. Oui, tout à fait. On a entraîné l'intelligence artificielle à reproduire la voix de Darth Vader en le faisant analyser des extraits de la voix de James Earl Jones. C'est plus compliqué qu'on l'imagine. Je pensais que c'était simple. Il y a, pour 50 lignes de dialogue, il faut transmettre presque 10 000 fichiers. On part pas de zéro non plus. Il faut partir de la voix d'un acteur. Donc, un acteur qui a une voix, j'imagine, similaire à celle de James, donne les lignes de dialogue et elle est convertie en voix de Darth Vader grâce à une intelligence artificielle. Donc, c'est pas en tapant du texte au clavier. Ça peut être s'en venir dans quelques années. Donc, c'est la voix synthétique de Darth Vader qu'on entend dans la nouvelle série Obi-Wan Kenobi.
Ah oui?
Dans les futurs. Tout à fait, déjà. Et dans les futurs projets de Star Wars où il va y avoir Darth Vader, ça va être la voix synthétique. La question que je me demande, c'est est-ce qu'on va faire la même chose pour les acteurs qui doublent la voix de Darth Vader dans d'autres langues?
Ah, bonne question.
Ceux qui l'ont doublé en français.
J'ai pas écouté Obi-Wan Kenobi en français. Ça serait bel exercice à faire. T'as bien raison.
Est-ce que c'est le même acteur qui reprend la voix depuis le début? Est-ce qu'ils ont eu ce souci du détail-là? Ce qui est particulièrement touchant, c'est que Respeecher, la compagnie, c'est une compagnie ukrainienne qui a fait tout ce travail d'intelligence artificielle-là littéralement sous les bombardements. Ils se sont dépêchés pour envoyer les trucs et ils avaient peur que la connexion Internet soit pas bonne. Très particulier, transmettre 10 000 fichiers, c'est beaucoup.
C'est une histoire.
Donc, c'est très, très beau comme histoire. Mm-hmm. Et je me dis, c'est peut-être ce qui nous attend pour les animateurs de podcasts, les animateurs de radio, les animateurs, les vedettes à la télé, ceux qui font des voix de personnages. Par exemple, Charles Tissère à Radio-Canada, qui a une voix très caractéristique.
Une voix éternelle, ben oui.
Va peut-être avoir une voix éternelle. Michel W. Duguay, c'est quoi? Qui va pouvoir continuer éternellement de faire « Bonjour! » Ça va être préservé. Mais aussi, les gens, c'est qu'il y a un acteur qui a perdu sa voix.
Il y a Val Kilmer qui a eu de la misère.
Val Kilmer qui a
des troubles
de santé
très graves, effectivement.
Ça pourrait peut-être avoir une voix préservée comme ça.
À suivre.
le futur.
Oui, monsieur. Parlant de, ben, de futur, futur proche, on le sait, hein, Apple a lancé son iPhone 14 la semaine dernière et il y a une des, en fait, la plus grosse nouveauté, c'est la capacité d'envoyer un message d'urgence, de dépannage, un SOS par satellite avec le téléphone quand on est perdu dans le fin fond du bois. Et c'est une, évidemment, ça fait jaser. C'est nouveau. Dans la mobilité, on n'a pas vu ça avant. Ce que ça fait, c'est que quand on est quelque part loin de la civilisation et qu'on n'a plus de réseau cellulaire ni de réseau Wi-Fi, y a une application sur l'iPhone qui permet ensuite de se connecter et d'envoyer un texte préétabli, un message texte à un satellite qui le renvoie à une petite une centrale d'appel, appelons ça comme ça, qui est gérée par Apple, qui traduit le texte en voix et qui l'envoie ensuite à aux autorités, en fait, aux gens de rescousse, de sauvetage à proximité d'où vous êtes, puis ensuite ils vont vous aider. C'est une fonction qui s'entend qui est très sérieuse. Et là, ça inquiète un peu les experts qui pensent que les gens, des gens pourraient soit mal l'utiliser maladroitement ou l'utiliser à des fins malicieuses parce que c'est gratuit. Mmh. Bon, puis là, il y a plein de raisons. Puis ça inquiète surtout l'association américaine de rescousse et de sauvetage qui a cette semaine émis un communiqué disant, écoutez, il faut pas trop se fier à ce genre de gadget. D'ailleurs, Apple, sur son site, quand il explique la technologie, indique qu'il y a des situations où ça ne marchera pas non plus. Donc, c'est pas un filet de sûreté pour les gens qui se lancent dans le vide de l'exploration et de l'aventure sans frontières. D'ailleurs, il faut se rappeler que c'est seulement fonctionnel aux États-Unis et au Canada et que vu la façon dont la nature, n'est-ce pas, est développée, c'est surtout dans le nord du Canada que ça risque de servir parce que partout ailleurs, on est toujours plutôt proche d'une localité ou d'un réseau. Mais cela dit, c'est ça, ce que l'association américaine dit, c'est que bon, il y a des gens évidemment qui vont partir mal équipés en se disant, bah, il n'y a rien là, j'ai un iPhone 14, et non, il ne faut pas non plus imaginer que ça c'est le cas. Il y a des gens qui vont partir et qui vont se dire, écoute, j'ai oublié mon poulet sur le feu, je vais utiliser ça pour texter à ma mère. Puis là, ça non plus, c'est un petit peu maladroit, voire abusif. Et évidemment, les gens qui vont tout faire pour tester la patente ou même l'en abuser. Donc,
on pense aux influenceurs, par exemple, qui s'amusent à crasher.
Faire exprès. T'sais, on a plié l'iPhone en deux juste pour voir si c'était solide. Ben là, on va pouvoir vouloir faire crasher un satellite juste pour le principe. Donc, effectivement, il faut faire gaffe, n'est-ce pas? Donc, mais surtout, le message à retenir, c'est si vous partez en forêt, ayez quand même avec vous tout ce qu'il faut pour être en sécurité. Et vraiment, en dernier recours, l'appel satellite devrait être utilisé seulement si tout le reste ne fonctionne pas. Et c'est exactement ce qu'Apple dit aussi. Donc, faites attention. La technologie, elle est bonne, mais elle n'est pas parfaite à tous les coups. N'oubliez jamais ça, surtout en forêt.
Les grandes entreprises ne peuvent pas dire la sélection naturelle, c'est quelque chose qui devrait s'effectuer.
Ouais, ça serait vilain de le dire, effectivement.
On peut évoquer. On souhaite de mal à personne, mais des fois, la sélection naturelle pourrait s'appliquer.
Hey, Intel a lancé de nouveaux processeurs et aussi un nouveau protocole, et ça, c'est intéressant, qui fait un peu la job de AirDrop, je pense, du côté d'Apple et de ce que. Je pense que Huawei aussi a un protocole similaire. Là, ça s'en vient partout maintenant, c'est ça qui va arriver.
Exactement. Puis je suis moins enthousiaste que toi quand j'ai vu ça. J'ai dit un autre protocole pour que les appareils se parlent bien ensemble.
Ouais.
Non, c'est le fun. S'il y a un protocole qui marche, qui est universel,
c'est une autre raison. Absolument.
Mais dans ce cas-ci, c'est un autre protocole qui n'est pas tout à fait universel. C'est Intel qui lance ça. Ça s'appelle Unison, comme la chanson de Céline Dion. Tu sais qu'elle avait un album.
Unison.
C'est un logiciel qui permet de mieux faire parler ensemble son téléphone et son ordinateur Windows. Ça promet, entre autres, de faire des appels, d'envoyer des textos, transfert des fichiers plus facile, l'utilisation de souris, de claviers, d'écran tactile, autant avec son téléphone, sa tablette que son ordinateur, et la petite twist amusante, autant avec iOS qu'Android. Les utilisateurs d'Apple, comme tu l'as mentionné, peuvent le faire avec Continuity d'Apple. Tu peux passer d'un clavier à l'autre, mais c'est uniquement entre les appareils Apple. Tu peux faire un peu la même chose avec Harmony OS, qui n'est pas disponible au Canada.
Ben oui, ben c'est ça, c'est une limite importante.
Mm-hmm. Tout ça à cause de petits trucs propriétaires, des petites fonctionnalités qui ne se parlent qu'entre appareils de la même compagnie. Mm-hmm. Il y a l'application mobile connectée de Microsoft qui permet de faire parler son téléphone avec son ordinateur Windows, encore une fois que son téléphone Android. Là, on pourrait faire ça. La chose qu'on ajoute en plus avec Unison, c'est le contrôle à distance de son ordinateur. Une option qui était pas mal fun à une époque où tu pouvais commander ton ordinateur, tu avais un téléphone peu puissant, tu peux te connecter à ton ordinateur, te transférer un fichier que tu avais oublié à la maison. Ouais. Maintenant, avec le stockage dans les nuages, je vois moins le code d'utilisation pourquoi on contrôlerait son ordinateur à la maison alors qu'on a pas mal accès à tout de son téléphone. Si quelqu'un a des suggestions, écrivez-moi, je serais bien curieux d'avoir un cas d'utilisation.
C'est vrai que ça arrive un peu en retard, ouais, effectivement.
C'est comme moins utile en 2022 avec le stockage en ligne nuage qui est accessible de partout. La chose qui est drôle, ça permettrait de fonctionner avec un téléphone Android 9 et plus, ce qui n'est pas une grosse contrainte à mon sens. 9 non. et plus, beaucoup de téléphones ont ça. Mm-hmm. iOS 15 et plus, encore une fois, c'est pas une énorme contrainte. Là où il y a une contrainte, c'est que ça va fonctionner uniquement mieux avec des ordinateurs Select qui ont un processeur Intel Evo,
oui.
qui ont la certification Intel Evo.
La nouvelle génération depuis l'année passée, là. Mm-hmm.
De 12e génération et plus, avec certains appareils seulement. Donc, et que c'est limitatif, pas avec oui. les processeurs AMD qui sont très populaires du côté Windows. Mm-hmm. Donc, c'est pas un standard de véritable interopérabilité encore. Intel aurait pu faire preuve de générosité et dire ça va fonctionner même avec les processeurs AMD. Mais non.
Mais non.
Ça fonctionne qu'avec les ordinateurs Microsoft, qu'avec les iPhones, qu'avec les Android, avec certains types de processeurs.
Ouais. Ben, en fait, il y avait probablement une limitation technique parce que la gamme de processeurs qui sont certifiés Evo ont des caractéristiques techniques plus avancées que les générations précédentes. Donc, ouais.
Exactement. Ils ouais. augmentent sans cesse leur critère de qu'est-ce qu'est un Evo. Mais je trouve ça intéressant qu'on y réfléchisse là-dessus. Et toi, parlant de Windows.
Ben oui.
Windows ben, est gourmand.
Ouais. Écoute, c'est sûr que pour nous au Québec, c'est moins un enjeu, mais la consommation d'électricité d'un ordinateur inquiète surtout des gens qui gèrent un parc d'ordinateurs en Europe, entre autres, où le prix de l'énergie a monté, a grimpé x10 depuis un an à cause de ce qui se passe en Ukraine. Et généralement, quand on le voit surtout du côté du mobile, on en parle beaucoup de l'amélioration de l'autonomie des niveaux des téléphones quand on passe de Android 11 à 12 à 13 et ainsi de suite. Et là, dans le cas de Windows, on en a parlé la semaine dernière, d'ailleurs, ici à une tasse de tech, il y a eu une mise à jour importante cet automne qui apporte un paquet de nouvelles fonctions, qui fait que le système a l'air plus fini, mais malheureusement, ça consomme aussi plus d'énergie. Il y a des gens, il y a des YouTubers français là, qui ont fait la comparaison. Ils ont utilisé un ordinateur, un seul ordinateur sans aucune application autre que Windows, partitionné en trois versions. En quatre versions, je veux dire, il y avait Windows 10, Windows 11 original, Windows 11 avec mise à jour actuelle et Windows 11 édition développeur que Microsoft appelle, je pense, Insider. Qui est toujours un petit peu plus avancé. Et ce qu'ils ont découvert, c'est que la version de Windows la moins énergivore du groupe était encore Windows 10. Que ce soit pour regarder de la vidéo sur YouTube ou utiliser une suite bureautique ou ainsi de suite, il y avait des différences dans certains cas de près de 10% de moins d'autonomie sur en utilisant Windows 11 mise à jour comme de la mise à jour automnale 2022 par rapport à Windows 10. Et même par rapport au premier Windows 11, la version mise à jour est un petit peu plus gourmande. Si on parle de quelques minutes sur 4 heures et quelque chose, donc c'est pas la fin du monde, mais quand même, c'est un peu dommage parce que ce serait un gain intéressant pour tous les gens qui ont un bloc-notes, un portable, puis qui voyagent beaucoup, de voir cette amélioration-là où on dirait, ben enfin, on peut utiliser 2 heures de plus que ce qu'on utilisait avant. Et là, on recule un peu. Donc c'est un peu dommage, mais évidemment, écoute, sur un test vidéo de 4h24, il y avait dans un certain... 5h24 dans le cas Windows 10, ça donnait 4h50-quelques d'autonomie sur un portable, le même ordinateur, avec la version plus récente de Windows 11. C'est quand même pas mauvais, mais c'est loin de ce qu'on annonce quand on parle de laptops qui peuvent durer 12h, 18h, et ainsi de suite.
Non, on est tellement loin de ça.
Donc, c'est extrêmement décevant. Donc, petit conseil, c'est un peu banal à dire comme conseil, mais peut-être que Windows 10, si vous l'avez encore, vous pouvez le considérer. Il va y avoir des mises à jour de Windows 11 au fil des prochains mois. C'est sûr qu'ils vont travailler là-dessus. Et Windows 11, qui est super soigné, a peut-être un petit peu négligé ce détail-là, mais Windows 10 reste supporté jusqu'en 2025. Donc, il y a le temps encore pour voir les choses venir. Et il y aura évidemment d'autres mises à jour. Cela dit, avec un port USB-C pour charger, c'est assez facile de se brancher n'importe où. Donc, c'est une mince limite, là. C'est pas la fin du monde, mais c'est quand même un peu dommage de voir ce recul d'autonomie. Mais ça arrive, que voulez-vous? Oui.
Léger recul.
Exactement.
Ça va s'améliorer.
Ça ne peut que s'améliorer.
Confiance au progrès.
Oui, monsieur. Parlant de progrès, on va en parler dans un instant. On reçoit un invité pour parler de la place du numérique dans l'appareil gouvernemental québécois maintenant que les élections sont en train de se terminer. Parce qu'il y en était peu question durant la campagne, mais on va en parler beaucoup après. On va faire la distinction. On en parle tout de suite après. Restez avec nous.
Rec-
Recule un peu, recule, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse, en masse. Crampe, crampe, crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.
OK, des crampes.
Bel Air Direct. L'assurance simplifiée.
De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget.
Bonjour et bienvenue à Une tasse de tech édition... Mon Dieu, ça dépend quand vous l'écoutez, j'allais dire post-électoral, mais c'est pas 100% vrai puisqu'on l'enregistre avant. Donc, nous sommes en campagne encore. Et puis, allez voter. Si vous écoutez en fin de semaine, lundi, oubliez pas, c'est la grande journée. Il faut y aller. C'est un devoir. C'est drôle, je sais pas, moi, à l'école, on m'a expliqué que voter, c'était un devoir. C'est, je sais pas quelque chose que tu fais si t'as le goût, c'est quelque chose que t'as pas le choix de faire parce que c'est ton rôle dans une démocratie. Fait que voilà, je l'ai dit. Allez voter. Et si vous avez pas l'âge, pratiquez-vous. Vous irez la prochaine fois. On va quand même parler un petit peu, très légèrement, de politique dans ce segment entrevue. Je te laisse nous présenter ça, Pascal.
L'entrevue de la semaine d'une tasse de tech qui est présentée par GoDaddy.ca qui offre un moyen facile de créer un site web professionnel facilement pour votre entreprise. Vous avez besoin d'un nom de domaine, d'un site web, de créer, de faire des tests, des prototypes. Pas besoin d'infographistes ou de développeurs. GoDaddy.ca, grâce à qui notre podcast, notre balado existe. GoDaddy.ca, jetez un coup d'œil. C'est chouette le WYSIWYG.
C'est chouette et facile et c'est une belle preuve que le numérique va très vite et avance et progresse. Et pourtant, c'est un sujet qu'on a très peu abordé durant la campagne électorale. Malgré le fait que, et ça, c'est un peu ça qui est étonnant, c'est que... du numérique dans le réseau de l'éducation, dans le système public de la santé, des choses comme ça, ça commence à faire sa place et ça soulève plusieurs enjeux. Il y a une lettre ouverte qui a été co-signée par beaucoup de gens influents dans le secteur du numérique au Québec et qui a été publiée dans les médias il y a plusieurs jours, ça commence à faire pas loin de deux semaines, pour justement demander aux candidats à l'élection, mais pourquoi ne parlez-vous pas plus de numérique? Et une des co-signataires est avec nous, c'est Martine Rioux qui est chargée de projet en édition numérique, entre autres pour École branchée. Bonjour Martine.
Bonjour.
Pourquoi on parle si peu de numérique dans la campagne électorale?
C'est un grand mystère.
Nous, on en parle à toutes les semaines pourtant et c'est super intéressant.
Oui, je pense que le numérique est partout dans notre société. Fait que on s'attendait à ce qu'il y en ait un peu plus dans la campagne.
L'autre jour, je suis allé voir le médecin pour un problème de dos. Puis on m'a dit, ben voici une prescription pour des pilules, n'est-ce pas? Et pour cette prescription-là, il faut aller voir la pharmacie qui vous est associée. Et cette pharmacie-là, je lui envoie de ce pas un fax pour qu'ils puissent recevoir la prescription. Puis, en fait, ils envoient un fax en théorie parce que ça part de leur ordinateur. Ça doit peut-être se connecter. En tout cas, tu sais, on est vraiment comme à une autre époque, encore en 2022. Puis, on s'en est rendu compte pendant la pandémie. Il y a un problème d'acquisition des technologies, pourtant, que le gouvernement pourrait résoudre rapidement. Et on en parle très peu. Est-ce qu'on n'en parle pas parce que c'est pas intéressant pour le public ou parce qu'on comprend pas très bien ça, grand public? Qu'est-ce qui fait qu'on en parle si peu exactement?
Ben, en fait, je pense qu'il y a un problème de vulgarisation du numérique parce que quand on dit numérique, ça a l'air d'être justement là, de la techno puis compliqué et tout ça. Sauf qu'après, quand on se met en jaser avec les gens, on se rend compte que c'est partout dans nos vies, mais qu'on le nomme pas nécessairement comme ça. T'sais, on va pas dire ton téléphone est numérique ou... Mm-hmm. Je pense que l'enjeu avec le numérique, c'est de nommer des utilisations très, très concrètes de ce qu'on en fait. T'sais, maintenant, aujourd'hui, nos agriculteurs se servent de GPS ultra sophistiqués pour capter des données dans nos hôpitaux. T'sais, oui, on fonctionne encore avec des fax, mais il y a aussi des opérations qui vont se faire avec toutes sortes d'outils très, très sophistiqués. Donc, le numérique est concret dans nos vies, mais on peine à l'expliquer puis à le rendre encore plus concret là, pour le commun des mortels.
C'est un bon point, la question de la vulgarisation. Quand on entend... Quand la manchette parle des technologies dans des secteurs comme l'éducation et la santé, c'est souvent une mauvaise nouvelle, genre fuite de données, mauvaise gestion de l'équipement, peu importe, puis ou des coûts faramineux de projets qui n'aboutissent pas, parce que souvent on fait affaire avec des fournisseurs qui sont... évidemment, là, on rentrerait dans des conversations sur comment le gouvernement fait de l'acquisition de technologies, puis c'est vraiment une autre conversation, mais juste strictement au niveau du numérique, le gouvernement... la CAQ précédente, parce que là, l'élection s'en vient, puis on présume pas de rien, mais... avait une espèce de vision de l'utilisation des données numériques, notamment en santé, qu'il pourrait utiliser pour ensuite faire de l'argent, pour créer un écosystème de start-up ou peu importe, qui utiliserait ça pour créer des services ou des applications, puis ainsi de suite. Est-ce que c'est la bonne approche? Est-ce que c'est quelque chose qui va arriver, qui a du sens, ou est-ce que c'est encore une espèce de spectre où on dit ça, puis dans le fond, on sait pas vraiment comment ça va débloquer.
Ben, en fait, je pense que la CAQ, quand ils sont arrivés il y a 4 ans, il y avait vraiment un espoir, je dirais, du côté de la communauté numérique, parce mm-hmm. qu'on a nommé un ministre délégué à la transformation numérique gouvernementale. T'sais, c'était déjà un énorme pas. Puis, en toute transparence, je dois le mentionner que j'ai travaillé à son cabinet au ministre pendant 1 an et demi.
Fait
que j'ai vécu la machine de l'intérieur aussi. Fait que, tu sais, c'est pas peine de pas avoir de volonté, là, je pense. Là, tu sais, la volonté était là. Sauf que mon interprétation, c'est qu'on se fait vite rattraper par toutes les procédures et les fonctionnements du gouvernement et tout ça. Alors que le numérique commande d'être capable de se revirer de bord sur un dixième, pensez-moi l'expression, mm-hmm. mais tu sais, puis d'aller au-delà des tendances, aller beaucoup vers la communauté au lieu de se refermer sur soi. Alors que dans le gouvernement, au contraire, on est habitué de fonctionner plus en silo.
Oui, mais il y a beaucoup de... C'est des verticaux. Chaque ministère est indépendant d'une certaine façon des autres.
Je pense qu'il y a des volontés d'aller de l'avant, mais que ça ne se traduit pas encore en action concrète et en vision globale. Parce que un des points là, aussi qu'on voulait faire ressortir dans la lettre, c'est qu'il y a il y a différents plans d'action numérique dans le gouvernement, mm-hmm. mais il y en a un à l'éducation, il y en a un à la culture, il y a la stratégie de transformation numérique gouvernementale dont je viens de parler, mais tout ça est disparate mm-hmm. dans les ministères. Puis là, présentement, toutes ces stratégies-là doivent être revues et renouvelées. Donc, je pense que l'occasion est bonne présentement pour le gouvernement de dire on va réunir tout ça, tous les experts du numérique à l'intérieur du gouvernement, puis pouvoir travailler là, sur une vision cohérente puis aller plus loin dans la transformation numérique.
Oui, ben ça va prendre ça parce que là, il y a le je ne sais pas si tu l'appelles le portefeuille, mais il y a quelque chose qui s'en vient, un gros projet de numérisation des données des Québécois, finalement, au gouvernement qui est imminente.
Il y a une volonté là, de faire une identité numérique.
Identité numérique, merci, l'expression m'échappait, mais c'est ça, ça s'en vient. Puis c'est cette année, là, à moins que les choses changent de façon incroyable, c'est ce qu'on avait annoncé.
En fait, c'est même pour ça l'identité numérique. Mm-hmm. Je pense qu'il faut la vulgariser. T'sais, on parle depuis le début de vulgarisation, mais mm-hmm. je pense que c'est ça. Il faut l'expliquer pourquoi, puis qu'est-ce que ça va donner de plus, moi, comme citoyen, dans mon interaction ouais. avec l'État, qu'est-ce que ça va rendre plus facile. T'sais, je pense qu'il manque un petit twist là, de vulgarisation pour expliquer aux citoyens qu'est-ce qu'ils vont y trouver dans ces projets-là, dans ces méga-projets-là, au-delà des mauvaises nouvelles que les journalistes vont se faire un plaisir de
communiquer. T'as sûr ce que tu dis des journalistes, là?
Je suis mon même journaliste.
Non, mais tu sais, pour la vulgarité, nous, on est champions, moi puis Alain. Moi, surtout Alain, un peu moins.
Quand on ferme les micros.
On est capable. Dans la lettre ouverte, vous avez mentionné, est-ce qu'un seul des partis est en mesure d'envisager la création d'un organisme indépendant et adéquatement financé, chargé de conseiller le gouvernement et le public sur les enjeux numériques? Qui est-ce que vous voyez pour prendre ce rôle-là? Est-ce que vous avez en tête un organisme qui est déjà là? Est-ce qu'il y a déjà quelque chose? Pensez-vous, est-ce que je vais recevoir un appel en disant, Pascal, on aimerait ça que tu sois sur un comité avec Alain, puis toi, Martine, là-dessus? Comment vous voyez ce conseil-là, ce rôle de conseil-là du gouvernement?
Bien, en fait, l'idée derrière ça, c'est de dire, le gouvernement, son rôle, c'est pas nécessairement d'être toujours en avant de la parade puis de voir tout venir parce qu'il y a d'autres choses à s'occuper. Donc, peut-il s'appuyer sur l'expertise du secteur et du milieu? Je pense qu'au Québec, on a toute l'expertise numérique, quantique, intelligence artificielle, name it. Tout est là. Donc, est-ce que le gouvernement peut s'appuyer sur un nouveau conseil du numérique? Nommons-le comme ça pour les besoins de la cause aujourd'hui. Mais je pense qu'il n'existe pas encore ce conseil-là, puis qu'il serait à être imaginé puis à être créé, mais il faut lui donner certains pouvoirs ou une légitimité.
Un peu de levier, ben oui.
Mm-hmm. Des leviers, parce que sinon, ça va être juste un autre comité parmi d'autres comités là aussi.
Ouais.
Puis en faisant cette proposition-là, on s'appuie aussi sur ce qui se fait en France, parce qu'en France, il y en a un conseil du numérique depuis plusieurs années, je dirais. Là. Puis il y a quand même, ça l'a permis d'agir comme levier, puis justement pour venir voir, venir à l'avant, venir montrer des choses qui s'en viennent ou soulever des enjeux en lien avec les usages du numérique. On n'arrête pas de nommer le RGPD en France comme exemple là, sur la loi sur les protections des renseignements personnels qui est en train de servir de modèle partout dans le monde. Mm-hmm. C'est correct parce qu'ils se sont penchés là-dessus puis ils ont vraiment eu une réflexion et proposé des choses à ce sujet-là. Mais pourquoi nous, au Québec, on serait pas capable de créer un organisme puis d'être aussi des précurseurs dans réfléchissons aux enjeux, qu'est-ce que ça peut apporter puis comment on peut solutionner. Mm-hmm. Puis, pas juste parler d'enjeux non plus, parce que le numérique, c'est plein de possibilités.
Oui.
Puis c'est ça qu'il faut aussi démontrer, tous les avantages qu'il peut y avoir avec les usages.
Ben, le gouvernement, d'ailleurs, québécois, a adopté un cadre de gestion des données numériques qui ressemble un peu au RGPD, qui va être mis en application. C'est surtout au niveau des entreprises au fil des 2 ou 3 prochaines années. Et pour surveiller tout ça, ils ont confié un peu le mandat à la Commission de l'accès à l'information, qui est déjà débordée pour tout ce qu'elle faisait déjà avant. Et là, évidemment, ils doivent embaucher des spécialistes, tout ça. Est-ce que ça serait probablement plus conséquent d'avoir un organisme indépendant qui aurait juste ça comme mission de surveiller ce qu'on fait avec les données numériques puis ce qu'on fait aussi en termes d'application, j'imagine?
Ben, je pense que c'est ça, la CAI, ça leur revenait de facto, là, mm-hmm. présentement, sur la loi là, qui est là, mais je pense pas qu'on leur a donné les moyens de nos ambitions, justement.
Mm-hmm.
Je suis pas certaine qu'ils ont beaucoup de spécialistes du numérique en interne, puis qu'ils vont être capables de faire les suivis et d'être un levier là, pour conseiller les organismes. Donc, je pense visiblement que ça a à être quelque chose d'autre qu'il faudrait imaginer ensemble. Pour donner vraiment un élan là, à tout ça. Là.
Et moi, une des craintes que j'ai, c'est que si on crée un comité comme ça, c'est qu'il y ait un biais. C'est des gens de l'industrie. Par exemple, évidemment, les gens de Facebook, de Google, d'Apple vont se faire un plaisir, ou Microsoft vont se faire un plaisir de participer à ces comités-là. Mais évidemment, ça va biaiser la discussion. Parce que c'est sûr qu'on va avoir un intérêt à dire non, finalement, la collecte d'informations, c'est pas si mal, on gère bien ça. Fait que l'indépendance, et là, en même temps, si on met que des théoriciens, si on met que des éthiciens, si on met que des gens, mm-hmm. on n'a pas à ce moment-là d'action, on n'a pas ça va prendre un comité qui va, de façon efficace, conseiller le gouvernement pour accélérer, je crois, la mise en avant de différents projets qui, oui, vont être controversés, mais il va falloir choisir le risque nécessaire pour avancer. Des fois, le mieux, c'est l'ennemi du bien. Puis je crois qu'en numérique, on va faire des erreurs dans le futur, mais si on minimise ces risques-là par une bonne consultation, un bon comité, ça peut être vraiment, vraiment très, très chouette. Mais il ne faudrait pas que ce soit un comité qui soit uniquement de l'industrie ou un comité uniquement dans les nuages universitaires. Il faut que ce soit un bel entre-deux pour avancer efficacement dans cette discussion-là.
Mm-hmm.
Je pense que c'est la représentativité qui va être importante. Puis c'est dans tout, là, puis justement, le numérique, le risque zéro n'existe pas avec les technologies. Là. Donc, on parle beaucoup de cybersécurité, mais c'est ça, je pense qu'il faut toujours prévoir le pire pour vivre le mieux là-dedans. Donc, oui, c'est certain que je pense qu'il faut faire place à une diversité de gens, d'experts, puis pas nécessairement des gens issus des technologies, là, ça peut être des gens en sociologie, en santé. C'est toutes les sphères de notre société sont touchées par les transformations, les bouleversements numériques. Puis moi, j'aime à dire que c'est peut-être même, c'est plus d'être moderne dans nos approches, parce que la modernité, ben c'est ça aujourd'hui, maintenant. Donc, ça touche à tout. Là.
J'aurais aimé ça demander à chacun des parties, puis ça n'a pas donné, mais... Est-ce qu'il faudrait avoir une cyberarmée au Québec pour se cyberprotéger contre les cybermenaces? Parce que de plus en plus, c'est un outil géopolitique utilisé par certains pays pour... Puis on en a vu concrètement au Canada dans les dernières années, des cas de... On parle beaucoup de rançongiciel, puis souvent, c'est des tentatives, justement, de miner des systèmes, souvent des industries critiques. On a vu... Il y a eu un cas de pipeline il y a quelques années aux États-Unis qui était détenu, entre autres, en partie par la Caisse de dépôt. Donc, on est quand même impliqué dans ce créneau-là. Et on a l'impression un peu qu'on n'est pas armé, pas militairement parlant, mais on n'est pas équipé, disons, pour... Si tout d'un coup, on fait un faux pas, puis là, il y a un pays qui décide qu'il veut nous attaquer cyber militairement. On est un peu mal préparé. Est-ce que c'est quelque chose qui devrait aussi être considéré dans les stratégies numériques d'un gouvernement comme celui du Québec?
Ben en fait, il y a déjà au Canada, c'est sûr qu'on fait encore partie du Canada, jusqu'à
pas
je comprends,
mais
au Canada, ils ont déjà un centre là, de cyberdéfense, je ne saurais pas le nom exact, mais au Québec, ça doit faire 2 ans maintenant qu'il y a un centre gouvernemental de cyberdéfense qui est en train de se constituer. Là, c'est sûr qu'il y a peut-être des enjeux de recrutement, là, comme dans plusieurs industries. Là. Mais tu sais, je pense que là aussi, il y a une volonté, mais c'est qu'on tarde à se donner les moyens vraiment de le mettre en application. Ça, je pense que c'est au niveau du gouvernement, il y a déjà... Il y a déjà plus de cohésion entre les ministères. On parlait de silos tout à l'heure, gouvernemental, mais je pense qu'au niveau de la cyberdéfense, il y a eu des pas quand même qui ont été faits là, où tous les responsables de cybersécurité dans les ministères se parlent. Là où je pense qu'il y a quelque chose qui pourrait être fait de plus, c'est vraiment au niveau des entreprises. Mm-hmm. Parce qu'on l'a vu là, dernièrement, il y a des grosses entreprises, le Bombardier, il y avait eu Bridgestone.
BRP, et, ça fait prendre, Alcoa, oui, effectivement.
Et tout ça, là, mm-hmm. Qui ont eu des cyberattaques, l'Union des producteurs agricoles, mais je pense que c'est ces organismes-là présentement qui auraient besoin d'avoir
un coup de pouce d'en haut, c'est ça?
Un coup de pouce d'en haut pour mieux les former, mieux les accompagner, tout ça, parce qu'ils sont comme démunis, parce qu'ils ne savent pas nécessairement. Puis là, on en vient à la littératie numérique puis aux compétences numériques, mais c'est pas acquis de savoir quoi faire nécessairement, puis les bonnes pratiques de cyber-résilience, là, c'est pas acquis partout. Là.
Non, effectivement. C'est une conversation qu'on aurait pu, qui aurait été le fun d'avoir avec des gens. C'est vrai qu'on... Peut-être que la prochaine fois, on va inviter 5 candidats, 5 représentants. Je sais pas combien il va y avoir de partis aux prochaines élections, mais de toute façon, c'est sûr que ça va être une conversation à continuer une fois l'élection terminée, parce que c'est un rouleau compresseur, le numérique, c'est sûr qu'on va ça va se déployer puis que le gouvernement va en parler. Donc, ce sera une conversation à suivre après les élections. Martine Rioux, chargée de projet édition numérique, notamment à l'École branchée. Merci d'avoir été avec nous, c'est très intéressant.
Merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci de l'invitation.
On fait une micro-pause et on revient ensuite avec des gugus qui se plient comme ça, n'est-ce pas? Restez avec nous.
Recule un peu, recule, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse, crampe, crampe, crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.
OK, des crampes.
Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.
De retour à Une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget.
Et re-bienvenue à Une tasse de tech. On parle de notre segment populaire, segment gadget. Il y en a beaucoup de gadgets cette semaine, Pascal.
Oui, on est dans le temps des fêtes.
Ça sent, oui, effectivement, ça sent le temps des fêtes. Il va y en avoir plus encore à venir parce qu'on le sait, hein, il y a des nouveautés Google qui s'en viennent la semaine prochaine, des nouveautés Microsoft dans 2-3 semaines. Mi-octobre, ça vient vite, c'est dans 2 semaines, effectivement.
C'est très rapide.
Donc, on va avoir beaucoup de choses de quoi parler dans les prochaines semaines. Mais cette semaine, tu nous présentes en fait 2 liseuses, si je comprends bien, pour les gens qui lisent, j'imagine, beaucoup, parce que ça semble être des appareils spécialisés assez intéressants. Là.
Les liseuses, c'est toujours des appareils extrêmement spécialisés. C'est beaucoup plus doux pour les yeux que les tablettes en écran LCD, en écran OLED. Mm-hmm. J'ai la liseuse Clara 2E, la nouvelle version de la liseuse de Kobo d'entrée de gamme, 6 pouces de diagonale, très compacte. C'est un livre de poche très mince. Littéralement, on peut le glisser dans sa poche de manteau, dans une poche de sac à dos. Très léger, ça peut contenir jusqu'à 12 000 livres. Donc, ça ne pèse pas 12 000 livres. Un livre numérique n'ajoute pas de poids. Il y a beaucoup, beaucoup de stockage qui est disponible. Ça permet de lire des livres audio aussi. Jusqu'à 75 livres audio peuvent être stockés à l'intérieur. Ceux qui veulent entendre leurs livres plutôt que les lire. Encore une fois, si vous achetez une liseuse uniquement pour entendre des livres audio, vous pouvez le faire avec votre téléphone.
Oui, exact.
Pas besoin de vous installer l'application Kobo ou l'application Audible pour le service d'Amazon. La liseuse Kobo, elle est vendue par Kobo. Elle n'est donc pas compatible avec les livres Amazon. Ça, c'est une chose qui est très...
C'est pas un Kindle. Ça, c'est vrai.
C'est pas un Kindle. On peut l'acheter, c'est 160 $. C'est pas donné. C'est beaucoup de livres de poche, mais ça se rentabilise ensuite très rapidement parce qu'on peut trouver du contenu assez facilement sur Internet. Ceux qui sont curieux. Et aussi, c'est compatible avec les services de bibliothèque, avec OverDrive, votre bibliothèque de quartier. Ça, on ne peut pas faire ça avec les Kindle, pas encore. On a aussi un service par abonnement qui est une $10 qui permet d'avoir autant de livres, de lire autant qu'on veut et de conserver des livres dans sa liseuse au fil des mois. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose.
Le catalogue Kobo contient quand même beaucoup de contenu en français aussi. Beaucoup de livres numériques québécois.
Très similaire en termes de librairie avec celle d'Amazon, étonnamment. Ce n'est pas exactement les mêmes prix. Il y a des fois des promotions d'un côté ou de l'autre, mais en général, les tarifs ne sont pas beaucoup plus élevés en moyenne. Encore une fois, on peut lire aussi des articles de Pocket, une autre chose qu'on peut pas faire avec Amazon. On peut s'envoyer des articles par courriel avec Amazon, mais avec les tablettes Kobo, une fonction que j'aime beaucoup, beaucoup, c'est quand on voit un article qui est un peu long et qu'on veut le lire à tête reposée, on peut tout simplement cliquer sur le bouton de son navigateur « Sauvegarder dans Pocket ». On démarre sa tablette, on est connecté au web, on peut tout de suite lire ses articles et les lire tant que, même hors connexion, une fois qu'ils sont téléchargés dans sa liseuse, on peut le faire.
Pocket, qui est une sacrée application, effectivement, multiplateforme, tout, là, elle existe partout pour faire des signets web rapidement, télécharger du contenu, effectivement.
On peut surligner du texte aussi si on veut annoter. C'est très, très chouette comme
option. On peut contourner certains murs payants ou certains sites protégés.
Grâce à faire raison.
Mais je ne vous l'ai pas dit.
Ouais, on peut cliquer sur le lien. Je ne sais pas pourquoi. Kobo a peut-être des ententes, contourne peut-être les murs payants grâce à Pocket. Elle est étanche, elle est résistante à l'eau de 60 minutes à 2 mètres de profondeur, ce qui est très chouette. Si on est dans son bain sur le bord d'une piscine en vacances, ça va augmenter sa durabilité. Éclairage doux la nuit, peut passer de blanc à orange, donc plus le fun. Très belle résolution, très compacte, très, très le fun. Elle est 160$, ce qui n'est pas donné. Le modèle précédent, la Clara tout court, est un peu moins coûteuse, un peu moins avancée, un peu moins rapide. Le feuilletage des pages, j'ai été surpris de voir, très fluide, très rapide. Vraiment, il n'y a plus de petits glitchs entre chaque page qui était dans les générations précédentes. La question, c'est est-ce qu'on s'achète une liseuse comme ça pour consulter des livres? Si vous lisez peu, non. Mm-hmm. Achetez-vous un iPad, achetez-vous une tablette régulière, ça fonctionne très bien. Si vous voulez lire avec une liseuse en papier électronique, c'est une super bonne option. C'est les modèles d'entrée de gamme, 6 pouces, très compacts. Il y a des modèles plus grands, plus confortables pour lire. Si vous lisez vraiment beaucoup, payez-vous les pouces de plus.
Je suis entièrement d'accord. 9 à 10 pouces, différence. C'est bon ça.
Vraiment le fun pour lire. Et sachez que c'est une tablette qui n'a pas d'application. Ce n'est pas basé sur Android. C'est un système d'exploitation propriétaire qui fonctionne super bien. Mise à jour fréquente, très, très belle. Mais pour quelques dollars de plus, pour 40$, vous pouvez avoir la PokéBooks, la PokéCat de Books, qui est basée sur Android.
Moins connue, marque chinoise, mais qui est quand même très bonne.
Marque chinoise. Fait du très bon travail, légèrement plus compact, légèrement, sensiblement la même épaisseur, légèrement plus mince quand même, mais elle est basée sur Android. Donc, vous pouvez non seulement avoir votre application Kobo, mais vous pouvez aussi avoir l'application Amazon, l'application de votre service de
prénumérique. Ben oui, voilà.
Prénumérique, vous pouvez vous amuser comme ça, installer Pocket, installer Feedly, naviguer sur le web à la limite. C'est possible avec la Kobo, mais c'est pas fait pour ça. C'est 40$ de plus. Et si vous voulez écrire sur votre tablette. Kobo fait une liseuse qui écrit, mais moi, je vous recommande plutôt la MobiScribe ou la Supernote. Oui, il y a encore. Non, je te dis. J'ai vraiment... C'est une tablette qui permet d'écrire. Donc, non seulement on peut installer, c'est aussi basé avec des applications. Donc, on peut installer des applications de son choix. Et on a quelque chose d'assez compact. C'est 7 pouces de diagonale, un peu plus grand. Mais on peut, avec la MobiScribe ou la Supernote, on peut avoir à partir de 400$ une liseuse sur laquelle on peut écrire. Donc ça peut être une chose. On peut prendre des notes manuscrites et on peut aussi lire. Mm-hmm. Donc c'est vraiment une question de prix. Si on veut seulement lire, avoir un outil spécialisé et peut-être avoir une tablette à côté pour prendre des notes, c'est pas impossible. Souvent on lit un texte, on prend des notes à côté sur une feuille de papier, mais c'est tout à fait possible. La Clara 2E, une belle amélioration par rapport aux liseuses de base. On est une bonne génération et plus. C'est pas pour rien qu'ils mettent pas à jour les liseuses à jour à toutes les semaines.
Non, exact.
Mais j'ai trouvé que c'est très très chouette comme option.
C'est très durable comme appareil effectivement. J'ai encore
très bel appareil qui va vous durer longtemps.
Kindle effectivement chez nous dont on se sert encore. Merci Pascal. Moi je vais dans une
tout plein d'affaires.
Toute autre direction. J'ai un téléphone pliable. Ben ça veut dire on l'a vu la pub Samsung insiste fort sur ce appareil qui est le Galaxy Z Fold 4. Donc, comme le nom le dit, c'est la quatrième génération de cet appareil qui est en fait un 2-en-1 avec des guillemets téléphone-tablette. On a, quand il est refermé, un téléphone avec écran très vertical de 6,2 pouces de diagonale. 6,2 pouces, ça sonne comme un gros téléphone normal, mais comme il est très étroit, rapport d'écran 23-9, ce qui est extrêmement, ce qui est plus, en fait, plus étroit, même si on mettait dans l'autre sens que les films au cinéma là, qui sont en rapport en ratio 21-9. Ça donne une espèce de... Tu sais, dans les années 2000, les premiers téléphones, comme ça on les appelait les chocolate bar, les téléphones bar de chocolat, parce que c'était dans une forme un peu comme ça. Oui. Ben, c'est ce qu'on a là. Puis comme il est un petit peu plus épais, parce que dans le fond, il faut le replier en deux, plus épais qu'un Galaxy S, par exemple, ou qu'un iPhone, ou peu importe, ben ça donne un format refermé étonnant. Quand il est refermé, il y a un écran sur le dessus qui n'est pas le même que l'écran intérieur quand on l'ouvre en mode tablette, qui lui fait 7,6 pouces de diagonale, mais il est pas mal plus grand visuellement parce qu'il est aussi plus large, évidemment, deux fois plus large. Pour l'écran frontal, j'ai reçu l'appareil la semaine dernière. Je l'ai ouvert et je l'ai configuré sur mon bureau. Mon bureau, c'est une surface de bois lisse tout à fait correcte. Et en moins de 10 minutes, j'ai fait une grosse graphing en plein milieu. Puis là, j'en vois d'autres qui sont apparus parce que je l'ai laissé sur le comptoir ici où j'enregistre, où on enregistre la balado. Donc là, première, c'est une grosse déception. C'est un appareil qui coûte quand même 2200 quelque chose de dollars quand on l'achète tel quel. Il est offert en mensualité à 40. Le plus bas que j'ai trouvé chez un fournisseur, c'est 45 $ par mois sur 2 ans. Mmh. Bref, ça coûte des gros sous. Et là, paf, premier jour, graffinier, belle graphing en plein milieu de l'écran qui ne disparaît pas. Si vous achetez cet appareil-là, achetez un protecteur d'écran, au moins du petit écran frontal, ça doit exister, là, un petit film transparent très mince. Parce que sinon, c'est sûr que vous êtes graffinier parce que à l'endos, on a un appareil photo qui fait une bosse et qui n'est peut-être pas super commode à déposer. Donc, on a tendance à le déposer effectivement des fois du côté de l'écran. Surtout quand il est ouvert, l'écran frontal se retrouve à l'arrière. Donc, c'est un écran là, qui est à l'endos. Et là, on dépose la tablette comme telle sur un comptoir ou peu importe. Et là, paf, on peut égratigner. Et sérieusement, ça ne prend pas grand-chose parce qu'il n'y avait pas de saleté sur mon bureau quand c'est arrivé. J'étais un peu déçu. Pour le reste, c'est un bel appareil. Évidemment, la fiche technique est dernier cri. Là, on parle d'un appareil avec un processeur hyper rapide. Stockage 256 gigaoctets jusqu'à 1 téraoctet selon les versions. On a Android 12, Android 13 s'en vient de façon imminente. On a déjà vu, je pense que certains appareils Samsung ont commencé à le recevoir d'ailleurs. On a, bon, évidemment, je parlais tantôt des caméras. Caméra 50 mégapixels, grand angle qui est détaillé. C'est la même caméra que le S22, là, j'ai perdu le fil, 22 Ultra, je crois. 10 mégapixels pour le téléphoto et 12 mégapixels pour le normal. C'est pas un appareil que j'utilise pour prendre des photos personnellement parce que le format fait pas un... Si on a déjà tenu dans nos mains une caméra, qu'elle soit numérique ou à film, peu importe, et qu'on prend un téléphone, il y a quand même à peu près l'espèce de même format dans la main, quoique plus mince qu'un appareil photo. Mais ça, ouvert en mode tablette pour prendre une photo, c'est... Puis même fermé, c'est pas... Vu les caractéristiques autres que la caméra, qui est d'ailleurs excellente, c'est pas la première... particularité. En tout cas, c'est pas l'affaire que j'utiliserais le plus sur l'appareil, mais les photos sont quand même très bien. Mode nuit amélioré comme tout le reste. Si vous êtes très photo, je vous recommanderais davantage le Galaxy S, le téléphone, dans le fond, phare là, de Samsung qui a la même caméra puis qui fait aussi bien, mais qui est comme peut-être plus facile à tenir, plus compact. En revanche, ce qui est intéressant sur cet appareil-là, c'est qu'une fois ouvert comme ça, et qu'on le dépose sur le côté en mode plus tablette, là, en mode horizontal, le son est stéréo. Il y a deux haut-parleurs qui créent un son stéréo, ce qui fait qu'on écoute, on peut regarder des vidéos, puis c'est assez le fun, parce que le son, il sort pas juste d'un coin, là, en haut à droite, ou peu importe, comme certains téléphones d'une autre époque le faisaient. Ça rend donc l'interaction plus intéressante. Quand on l'ouvre aussi, l'écran qui est très lumineux, très beau, AMOLED, Samsung fait des écrans depuis toujours qui sont excellents. Celui-là, évidemment, a une espèce de petite barre dans le milieu, un petit pli qui reste toujours permanent.
Je vois le pli. La webcam, je vois distinctement un léger.
Il est visible et il est... Bon, certains vont dire qu'il est agaçant. C'est pas la fin du monde, là, mais il est quand même toujours présent. Il faut en tenir compte. Il y a quelque chose de, je veux dire, banal. Tu parlais de liseuse tantôt. Si on ouvre l'application de lecture de livres numériques là-dessus, ça s'ouvre sur... C'est comme si on lisait une seule page, alors qu'on pourrait en faire vraiment un lecteur, tu sais, un livre, parce qu'on pourrait l'ouvrir à peu près aux deux tiers, comme ça, comme un petit livre de poche. On pourrait avoir page gauche, page droite, mais ça n'existe pas en ce moment sur cet appareil-là. On a peut-être manqué une petite occasion là. Cela dit, qui lit des livres sur son téléphone, peu de gens, j'ai l'impression. Moi, ça m'arrive. Bon, en tout cas, peu importe. Il y a reconnaissance faciale pour déverrouiller, lecteur d'empreintes qui fonctionne plutôt bien sur le côté. C'est un bel appareil. Malheureusement, il est un peu cher. Pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il est vraiment cher, plus cher qu'un ordinateur complet, là, 2269 $. Il y a deux choses. Il pourrait avoir un stylet comme le Ultra chez du Galaxy S qui en ferait un bel appareil qu'on ouvre et là sur lequel on prend des notes, un peu plus comme un calepin. Ça serait une bonne idée. À ce prix-là, ce serait intéressant et pour moins cher, on peut l'avoir sur l'autre téléphone. Et Android en version tablette n'est pas au point. On va voir la semaine prochaine probablement la tablette Pixel. J'ai hâte de voir s'ils ont retouché l'interface parce que Android en grand format, les applications ne sont pas toutes prêtes à ça et souvent ça donne des c'est pas très beau. Alors on a perdu une occasion de ce côté-là, ce qui fait qu'on n'exploite pas à fond l'écran. Évidemment, tout le monde n'est pas d'accord. Je connais beaucoup d'influenceurs payés par Samsung qui vont me dire le contraire, mais
c'est tout à fait raison.
L'interface logicielle n'est pas au point. C'est malheureux parce que l'appareil, techniquement, c'est une super machine. Samsung, ils ont toujours le don de créer des produits matériels extrêmement bien soignés. Mais là, sur le côté logiciel, on a manqué l'occasion peut-être de booster un peu la présentation des applications qui en auraient plus bénéficié. C'est à vous de voir. Cela dit, si vous avez beaucoup de sous, vous pouvez acheter le téléphone et en plus le jumeler à des accessoires, parce que ça aussi, c'est des nouveautés.
Oui.
Et ça tombe bien, j'ai reçu deux accessoires qui vont avec, dont la Galaxy Watch 5 que j'ai ici au poignet, qui est une, un produit combiné ou j'aurais dit développé conjointement avec Samsung et Google, parce que le système dessus, c'est Wear OS de Google, qui va aussi avoir droit à sa montre Pixel la semaine prochaine. Donc, on va en reparler.
J'ai hâte de voir la différence, parce que montre de Google. Pas être spécial.
Ouais, ben déjà, puis la fiche technique, elle semble être un peu décevante, donc j'ai hâte de voir. Pour l'instant, la Watch 5 de Samsung est vendue en deux versions, la 5 et la 5 Pro. La grosse différence, c'est que la 5 a fait là un écran de 40 mm et l'autre 45 mm. C'est vraiment une question de goût. Moi, je trouve que la 40 mm est un peu petite, surtout que j'arrive, je débarque d'une Apple Watch Ultra de 49 mm, qui évidemment, elle est rectangulaire, donc c'est différent, mais quand même très grand, donc un très gros écran. Et dans ce cas-ci, 40 mm, c'est un peu serré. Cela dit, le cadran est rond, comme une montre, ce qui est comme à mon sens tout à fait logique.
En partant, c'est beau, là.
Et Wear OS, malgré ses nombreux défauts, a une boutique d'applications qui contient plusieurs applications très intéressantes, pas nécessairement obligatoirement développé par Samsung. Donc, il y a vraiment un écosystème là dans lequel on peut aller puiser qui donne un petit peu plus de caractère à la montre, que ce soit pour du suivi de sommeil, suivi d'activité physique, la lecture musicale. Spotify fonctionne en mode hors ligne sur la montre. C'est un gros atout. On peut pas vraiment aller bien loin là-dedans, mais on peut télécharger un peu de musique soi-même manuellement, des bons vieux fichiers MP3, et il y a des lecteurs musicaux qui s'installent aussi pour pas avoir à streamer à chaque coup. Il y a une version cellulaire de la Watch 5 aussi qu'on peut utiliser, mais ça commence à coûter cher quand on fait ça, donc je vous le recommande pas nécessairement de ce point de vue-là. Mais si vous cherchez une montre connectée, pas trop chère, c'est une question de point de vue, mais pas trop grosse, en tout cas pas trop imposante, c'est pas un mauvais choix. Il va falloir la comparer avec la Pixel Watch qu'on va voir la semaine prochaine, par exemple, parce que je ne sais pas à quel point laquelle des deux va être la plus attrayante. Google, quand ils font leur propre produit, ils ont tendance à soigner l'interface et rendre ça très intéressant.
Puis le prix aussi, combien va-t-elle coûter?
Exactement.
C'est les moins coûteuses, comme les specs, ils sont moins bonnes, mais est vraiment abordable. Ça pourrait être pour les utilisateurs d'Android, ça pourrait être un...
Ça pourrait faire une différence. La Galaxy Watch 5 est vendue 349 $ au Canada et la 5 Pro 559. Pour une montre, ça commence à être des gros sous, faut pas se le cacher.
Ah, du petit change à côté d'une Rolex.
Ah, t'as raison. D'ailleurs, on peut même aussi caler sa montre dans un verre de champagne en passant. Elle est résistante aux éclaboussures, la Watch 5, il n'y a pas de problème. Et l'autre accessoire que j'ai reçu, celui-là, ça m'intéressait peut-être plus que la montre, en fait. C'est les Galaxy Buds 2 Pro, les écouteurs. Pro dans le sens où il y a je sais pas pourquoi on dit pro, c'est vraiment une mauvaise habitude chez les fabricants, mais en gros ce que ça veut dire c'est qu'il y a une insonorisation active là-dessus qui est exceptionnelle, qui a été revue et améliorée par rapport au modèle précédent et qui est mieux en fait que ce qu'elle était. C'est une des bonnes paires d'écouteurs boutons que vous pouvez acheter en ce moment. À un détail près, c'est que elle est vraiment excellente si vous la jumelez avec un téléphone Samsung. Parce que l'application Galaxy Wear qui est dessus permet des fonctions qui ne sont pas nécessairement disponibles sur des appareils Android d'autres marques. Et encore moins sur iPhone, si on se comprend. Ce qui est un peu dommage, parce que sinon, on a vraiment une bonne insonorisation. Il y a une capacité de lire de la musique en format sans compression. Sur ces, et là, je vous épargne les codecs, là, mais c'est vraiment des formats musicaux avancés. Et c'est pour les gens qui veulent à ce point-là écouter de la musique, quoi qu'on ne fait pas nécessairement la distinction, des écouteurs comme ça dans le métro, on ne voit pas la différence entre un MP3 et un fichier FLAC. Là. Allez pas vous énerver avec ça, mais il y a quand même cette capacité-là, ce qui est quelque chose sur des écouteurs de cette taille-là. Il y a aussi ce que Samsung appelle l'audio surround, qui est de l'audio spatial, comme Apple le fait avec Apple Music et ses AirPods, donc, mais là, redéplacé sur la plateforme Samsung. Ça, apparemment, ça s'en vient une grosse tendance, là, cet audio spatial.
Google aussi va ajouter cette fonctionnalité-là dans les Pixel Buds.
Exactement. Et il y a tout ça en mise ensemble. Il y a des surfaces tactiles qui ne sont malheureusement pas au point, mais qui permettent de contrôler à même les écouteurs, l'écoute musicale qu'on fait, ou de même de parler à Bixby. Pour les gens qui utilisent Bixby, j'en connais pas. Je sais pas si t'en connais
pas.
Pascal.
Mort, oui. C'est... Il est pas mort, Bixby.
c'est de ça que parlait François Legault l'autre jour. Il est pas mort, lui. Bixby, on le sait pas. Mais Bixby, bref, pour les gens qui l'utilisent, est livré. J'ai pas réussi. Je sais pas si on peut changer à l'assistant Google. Je présume que ça doit peut-être être possible, mais je ne parierais pas mon salaire là-dessus. Et même que j'ai tendance à penser le contraire, mais si vous voulez, il y a quand même une commande vocale là qui peut être utilisée en français, mais minimale. C'est loin de l'assistant Google, c'est loin de Siri, c'est loin d'Alexa. Mm-hmm. Tout ça ensemble, 5 heures d'autonomie par recharge. On peut évidemment les tuer, les recharger. Ajoute 1 heure d'autonomie par 5 minutes de recharge ensuite. Donc, on peut vraiment rapidement retrouver ses écouteurs. La fonction d'appel n'est pas mauvaise. Là, l'annulation du bruit quand on parle est correcte. Je ne dirais pas qu'elle est super incroyable, mais elle fonctionne quand même assez bien. Et tout ça coûte un puissant 289 $. Mon Dieu, mes lunettes, j'en ai besoin. J'ai les yeux fatigués.
On est rendu dans des écouteurs. Autant qu'il y en a 50 $ qui font bien le travail, des 100 $ qui sont pas pires pantoute, 280. Ouais. On est dans le pro de gamme. Quand,
c'est pour ça qu'on met pro dessus, mais ça commence à faire cher pour des écouteurs qui... l'utilité, le cycle de vie de ces produits-là ne me paraît pas très long pour le prix demandé. Oui. On peut acheter des écouteurs à fil, même à connexion USB-C, là, de très bonne qualité pour 140-150 $. Puis des fois, on se rend pas compte que dans le fond, le fil, c'est pas un si gros, c'est pas un encombrement tant que ça. Là. C'est pas quelque chose qui est si embêtant. Parce que anyway, il faut avoir le téléphone. C'est pas comme si on pouvait mettre la musique directement sur ses écouteurs. Donc, c'est pas nécessairement c'est une conversation à avoir avec votre portefeuille. Je veux dire ça comme ça. Parce que c'est pas toujours justifiable point de vue financier.
Écoute, si on est rendu à parler à notre portefeuille, je pense que c'est le temps de mettre fin à cet extraordinaire épisode d'une tasse de tech.
Ouais.
On va remercier nos partenaires Microsoft, TELUS, Jura, GoDaddy.ca, C23, le groupe Cogeco qui diffuse notre podcast partout au Québec. Merci. Mm-hmm. 23. Claude Hébert à la mise en onde.
Merci à Claude. Merci à moi. Merci Pascal. Merci Pascal Forget, qu'on peut Pascal voir sur pascalforget.com. Exactement, je voulais le dire.
Mm-hmm. Suivez-moi partout. Je te souhaite une belle semaine.
Peut-être pas dans la rue. Salut tout le monde. On se voit la semaine prochaine. Salut Pascal.
C'est 23.
Recule un peu, recule, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse, crampe, crampe, crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.
OK, des crampes.
Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.